Animalis, le magasin des animaux à vivre et à aimer. Retrouvez-nous aussi sur animalis.com. Animalis présente.
Sud Radio, vos animaux, Natacha Harry.
Bonjour Gaspard, bonjour à tous, bienvenue dans vos animaux. On est ravis de vous retrouver en ce beau samedi matin de printemps. Et justement, parce que c'est le printemps, ça ne vous a pas échappé, il suffit d'ouvrir vos fenêtres pour vous en rendre compte. Eh bien, on va s'intéresser à nos animaux et on va se poser cette question. Comment vivent-ils l'arrivée du printemps? Comment vivent-ils ce changement de saison? À quoi faut-il faire attention? On en parle avec le docteur Fabien Klodzinski. Bonjour Fabien. Vous êtes en forme après cette petite nuit d'astreinte?
Il me reste un peu d'énergie.
Bon, ça va. Côté faune sauvage, on s'intéresse ce matin aux chauves-souris. On vous dira tout ce qu'il faut savoir sur ce petit mammifère qui pâtit souvent d'une mauvaise image. Enfin, on vous fera découvrir deux événements organisés ce week-end en faveur des animaux. D'abord, la Wamis Run. Bonjour Adrien.
Bonjour Natacha.
Adrien, vous êtes le patron de Wamis. C'est vous qui organisez cette Wamis Run, une course solidaire. Vous nous expliquerez tout ça tout à l'heure. Ça va se courir dimanche. Et puis on vous parlera aussi des assises de la protection animale organisées notamment par l'Arche des associations et Animalis. Ça aussi, ça a lieu ce week-end. Quel programme ? N'hésitez pas à nous appeler 0826 300 300. Vous le savez, on vous attend au standard de Sud Radio. Et tout de suite, on démarre avec vous Gaspard et le journal des animaux.
Sud Radio, vos animaux, Natacha Harry.
Et alors, on va démarrer par une bien triste découverte. Ça se passe du côté de la Seine-Maritime.
46 chats et 3 chiens ont été découverts par la SPA le 12 mars dernier dans une maison abandonnée. Ils vivaient dans des conditions exécrables. Selon la SPA, les propriétaires nourrissaient les animaux, mais se sont vite laissés dépasser par la situation. Les chats et les chiens ont été recueillis dans différents refuges de la SPA de la région et ne sont pour l'instant pas encore proposés à l'adoption, Natacha.
Malheureusement, là, c'est un fait d'actualité, mais des histoires comme ça,
il y en arrive tous les jours.
C'est incroyable, mais voilà, c'est le quotidien des associations de protection animale. Allez, on part du côté de l'Espagne avec cette fois-ci une bonne nouvelle.
Le combat contre les animaux de cirque prend chaque jour un peu plus d'ampleur. Mercredi dernier, la mairie de Madrid a voté l'interdiction des cirques avec animaux sauvages. La capitale espagnole suit l'exemple de nombreuses collectivités du pays qui ont banni les cirques gardant des animaux captifs et les utilisant pour leur spectacle. Ce qui concerne, à l'heure où je vous parle, Natacha, 9 régions sur les 17 que compte le pays. C'est quand même une belle avancée.
À bon entendeur pour la mairie de Paris. Peut-être
qu'un
jour ils feront la même chose. Allez, pour finir, on vous emmène du côté du zooparc de Beauval.
Et oui, situé dans le Loir-et-Cher, le zoo a investi 8 millions d'euros dans l'installation de 24 télécabines ouvertes au public à partir d'aujourd'hui. Elles permettront aux visiteurs de survoler pendant quelques minutes les animaux sans les déranger. 24 télécabines qui permettront à 2400 personnes par heure de survoler pendant 3 à 4 minutes les éléphants, gorilles, otaries ou encore les lions.
À découvrir. Tout de suite, vos animaux et vous, et on va parler du printemps.
Sud Radio, vos animaux et vous.
Alors c'est vrai que là, les journées vraiment sont magnifiques, surtout ce week-end, on va tous pouvoir profiter du soleil, de températures qui remontent et ça nous fait du bien. Alors comment nos animaux vivent-ils ce changement de saison? Y a-t-il des précautions à prendre? Bonjour Fabien Klodzinski. Vous
Bonjour.
Êtes, Fabien, vétérinaire et vous allez essayer de nous donner des conseils très pratiques pour faire en sorte que nos animaux vivent au mieux cette saison. N'hésitez d'ailleurs pas à nous appeler 0826 300 300, vous connaissez le numéro du standard. Fabien, est-ce que la saisonnalité est ressentie chez nos animaux de compagnie? On sait que dans la faune sauvage, il y a vraiment une saisonnalité marquée. Les animaux sont programmés en fonction des saisons. Est-ce que c'est la même chose pour nos animaux de compagnie, principalement nos chiens, nos chats?
Alors c'est aussi le cas chez les chiens et les chats, puisque le beau temps fait qu'on va augmenter l'activité, l'activité sexuelle va reprendre. Aussi bien chez le chien et le chat et le printemps signe la recrudescence aux urgences vétérinaires. C'est sûr, il y a une nette augmentation de fréquentation. Et je voulais ce matin parler d'un problème tout récent dans la région parisienne et région nord. Alors, je sais bien qu'on est sur Sud Radio et peut-être qu'une partie de
dans la France entière, nos auditeurs sont dans la France entière. Mais allez-y, parce que c'est intéressant quand même de mettre en garde nos auditeurs par rapport à ce que vous constatez, vous, sur le terrain.
Vous allez peut-être sortir dans la forêt, même dans les forêts très urbaines, et vous allez peut-être voir des petites chenilles, qu'on appelle les chenilles processionnaires.
Ouais.
On n'entendait quasiment pas parler il y a 1 an, il y a 2 ans, aucun vétérinaire de la région parisienne ou presque n'en avait entendu parler. Et là, on voit ces petites chenilles qui vivent dans des pins, dans des gros nids de soie qui descendent et qui, on les appelle processionnaires parce qu'elles se déplacent les unes derrière les autres. Elles sont très poilues. Alors, chacun de nous aurait pas du tout envie de s'en approcher. Par contre, nos animaux de compagnie, ça attire beaucoup leur curiosité. Et ces petites chenilles sont très, très urticantes pour la peau, les muqueuses, les voies respiratoires. Et leur simple contact peut engendrer une urgence vitale.
Ah oui,
et
à
parfois,
ce point.
Le décès. Ouais, ouais. Les premiers signes cliniques sont... Alors, on voit pas forcément le chien ou le chat s'en approcher. C'est ouais. aussi bien chez le chien et chez le chat, cette problématique. Hein. Mais un chien qui revient, qui bave... qui mâchonne, qui lèche et qui commence à avoir un œdème des muqueuses, peut-être qu'en ce moment, là, c'est vraiment la période rouge pour ça, peut avoir touché, mais ne serait-ce que s'approcher à quelques centimètres, hein, parce que ces poils-là, ils se déplacent.
Ce sont les poils qui sont urticants, en fait.
Ces poils sont urticants et entraînent des œdèmes, des douleurs, rougeurs, ulcères, ça peut aller par la nécrose de la langue et de la face. C'est une urgence vitale, on en a entre 2 et 3 par jour en ce moment.
Bon, eh bien écoutez, à bon entendeur,
on part du côté du standard avec Caroline qui a composé le 0800 26 300 300 et qui veut vous poser une question. Bonjour Caroline.
Bonjour Caroline.
Bonjour, Caroline. Bonjour à tous. Oui, moi j'ai un chat qui commence avec le printemps à sortir davantage. Oui. Mais justement, il y a un mois à peu près, elle a eu une cystite et le vétérinaire a dit en effet, bon, elle avait une cystite, mais qu'il y avait peut-être autre chose. Elle nous demandait si elle sortait beaucoup, et on disait qu'elle sortait moins qu'avant, et il supposait qu'elle avait peut-être peur de certains chats aux alentours de notre maison, quoi.
D'accord. Alors, Fabien, est-ce que le fait que la chatte de Caroline sorte moins qu'avant peut être lié à une crainte vis-à-vis de congénères qui seraient peut-être pas très sympathiques avec elle ?
A priori, c'est l'autre grande pathologie qu'on rencontre aux urgences en ce moment. Pas forcément les cystites. Le rapport de lien de cause à effet est difficile à faire. Mais par contre, les chats, à l'arrivée du beau temps, ils sortent de leur canapé et puis ils reprennent leur bout de jardin. Et donc, pour ça, c'est des bagarres sans précédent, avec des morsures qui peuvent être parfois graves, la formation d'abcès, de phlegmons. C'est sûr que si elle a un voisin un petit peu belliqueux, elle va peut-être plus rester à l'intérieur.
Rester chez elle, tranquille.
Après, de là à faire le lien avec une potentielle cystite.
C'est peut-être la douleur aussi engendrée par la cystite qui fait qu'elle sort moins,
exactement,
tout simplement.
Oui, oui. Exactement. Oui, oui. Après, oui, l'origine, oui. Ça nécessite aussi des examens complémentaires pour exclure toutes les causes métaboliques ou physiques, anatomiques. Mais c'est sûr qu'il y a une particularité du chat femelle, c'est que les cystites peuvent être d'origine somatique et comportementale. Donc.
Oui, voilà, c'est ce qu'il nous disait, que ça pouvait être les deux, quoi, qu'il y avait une partie aussi, en effet, comportementale. Et d'autre part, comme elle est en surpoids, et avant, on habitait une maison, il y avait un plus grand terrain, elle sortait davantage, où il y avait des arbres, elle grimpe, enfin voilà.
Alors c'est vrai qu'il ne faut pas tomber dans ce cercle vicieux de l'animal en surpoids, donc il sort moins. Forcément, s'il sort moins d'exercice, donc plus de prise de poids. Oui. Il faut encourager quand même ses sorties, Caroline, quand la cystite sera totalement passée. Et puis, effectivement, regarder un petit peu ce qui se passe quand elle sort pour voir s'il n'y a pas des chats un peu belliqueux dans son entourage. Voilà.
Oui. Merci beaucoup.
On vous souhaite un excellent week-end, Caroline. À très bientôt.
Merci.
Et merci d'avoir composé le 0800 26 300 300. Fabien, concernant. Alors, on parlait des chenilles processionnaires. Y a-t-il d'autres insectes qui sont problématiques en cette période de l'année? J'ai envie de vous parler des puces. Il y a une saisonnalité sur les puces ou pas?
Oui. Oui, plus ou moins. En ce moment, c'est sûr que la nature se réveille. Hein. Les insectes avec. Et les animaux vont commencer à sortir, donc ils vont commencer à peut-être s'infester par des puces, par des parasites, parasites intestinaux, hein, qui se sont mis dans la terre, et là, ils se réveillent. Donc, c'est le moment de vermifuger et de traiter avec des antipuces. Alors, là,
Vous préconisez sur les antipuces? Parce qu'il y en a de toutes sortes, les pipettes, les comprimés.
Les colliers.
Voilà.
Ça, c'est un peu en fonction de l'activité et de l'environnement.
Hein. Est-ce qu'ils sont tous efficaces de la même manière ?
Tous les médicaments qui sont vendus chez un vétérinaire ou éventuellement même dans une pharmacie, bien conseillés, ils seront efficaces. Par exemple, un chien de chasse, on va peut-être plus privilégier un collier anti-puce qui va garder un taux de molécules élevé au contact de l'animal. Un chat, on va éviter le collier parce que surtout un chat qui sort,
il risque de s'étrangler.
Les comprimés peuvent être aussi réservés sur des chats, par exemple, qui font des allergies aux pipettes. Qu'on met une pipette sur le dos, et ils deviennent pendant une demi-heure fous. Ils peuvent même faire des alopécies, des pertes de poils, des érythèmes. On va plutôt lui administrer des comprimés. Donc ça dépend un petit peu de votre animal. Il n'y a pas de règle. Présentez-vous chez votre vétérinaire à l'accueil et demandez au vétérinaire qui est présent ou à l'infirmière, en fonction de votre animal et son mode de vie, il vous renseignera au mieux. Mais en tout cas, je pense qu'il faut aller l'acheter dans une clinique vétérinaire.
Très bien, allez, petite pause et on se retrouve juste après, toujours pour parler du printemps et de nos animaux.
Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente.
Sud Radio, vos animaux et vous.
Comment nos animaux vivent-ils l'arrivée du printemps? On en parle ce matin avec le docteur Fabien Klodzinski. Fabien, cette période printanière, c'est vraiment un moment où tout le monde a envie de mettre le nez dehors. Nos animaux, bien sûr, ne font pas exception à cette règle. Et alors, je crois que vous avez envie de nous mettre en garde par rapport aux chats, et notamment aux chats qui vivent en appartement et en étage élevé.
Alors, en effet, là, c'est le moment où les températures se radoucissent, où on a envie de renouveler l'air vicié qu'on a accumulé pendant tout l'hiver, et on ouvre les fenêtres. Donc, quand on est au rez-de-chaussée, ça ne pose pas vraiment de problème, même si le chat peut se sauver et se faire renverser par une voiture, surtout ceux qui n'ont pas vraiment l'habitude de sortir et qui traversent sans regarder à gauche et à droite. Mais quand on habite dans les étages élevés, les animaux ont tendance à sauter. Alors, ils ne sautent pas de leur propre fait, les chats. Les chats, ils peuvent se balader au 9e étage sur une rambarde de 3 cm et puis jouer avec un papillon. Ils sont complètement dénués du sens du vertige. Donc, un coup de vent, une fenêtre qui se ferme, et puis c'est la chute. Et parfois, ça peut être très grave. Nous, on a un record à la clinique, c'est 23e étage. Alors, j'ai appris la semaine dernière... 23e étage.
Et le chat est mort, j'imagine.
Non.
Il
n'est pas mort. Zéro fracture.
Du 23e étage ?
Oui, aucune fracture. Il a dû tomber un petit peu comme en vol semi-plané. Et puis, sa chute a dû être amortie par des arbres. Mais il avait, par contre, une rate. Il y avait une hémorragie interne.
Il n'est pas sorti indemne.
Non, il n'est pas sorti complètement indemne. Mais
les vétérinaires appellent ces chats les chats parachutistes, dans le jargon.
Voilà, mais sans parachute.
Sauf qu'ils n'ont pas de parachute, donc... la chute n'est pas forcément très heureuse.
Alors, le chat retombe évidemment souvent sur ses pattes. C'est pas une fausse histoire, c'est pas une légende. Sauf que du coup, ce sont les pattes qui cassent. Parce qu'il faut bien amortir par quelque part.
Donc il faut faire vraiment très attention à vos fenêtres en cette période de l'année. C'est vrai qu'on a tous tendance à ouvrir nos fenêtres quand il fait aussi beau.
Et protéger vos balcons.
Voilà. Alors pour ça, il existe des systèmes très bien faits. Alors soit on peut bricoler ça soi-même, ou sinon il y a des sociétés qui se sont spécialisées dans l'installation de sortes de grillages sur vos fenêtres. Bon, c'est pas très heureux, faut admettre les choses, ça a le mérite d'être efficace. Donc vraiment, faites très très attention à vos chats. Voilà, comme dit Fabien, ça sauve des vies, c'est super important. Alors, ce sont les chats qui vivent en appartement. Concernant les promenades, on disait tout à l'heure, ces chenilles processionnaires qui, grâce au réchauffement climatique, très certainement, sont de plus présentes sur l'ensemble du territoire français. Il y a d'autres maladies aussi auxquelles il faut faire attention. On pense notamment à la leptospirose en cette période de l'année.
Oui, là on
c'est quoi la leptospirose, Fabien ?
Alors, la leptospirose, c'est une maladie bactérienne que les chiens attrapent par contamination par des eaux souillées par les urines. Alors, ça peut être souillé par des urines de n'importe quel animal qui est capable de porter la leptospirose, ou on dit aussi c'est souillé par des rats, les andros. Il y a plein de rats là, au bord de Seine. On a beaucoup, beaucoup de leptospirose. C'est en ce moment, cette bactérie, elle est mortelle.
Globalement, dans toutes les grandes villes aujourd'hui, il y a des infestations de rats absolument incroyables.
Du coup, on voit peut-être encore plus de leptospirose dans les villes que dans les campagnes.
Ouais.
Avec la densité de population canine et la densité de population des rats, on en voit vraiment de plus en plus. Cette bactérie, elle est mortelle et c'est une zoonose. C'est-à-dire que c'est une pathologie que votre chien peut vous transmettre et vous pouvez aussi bien en mourir que lui. Elle crée une défaillance hépato-rénale. hein, donc une défaillance du foie et du rein avec des insuffisances rénales gravissimes, insuffisances hépatiques gravissimes.
Quels sont les premiers symptômes hein?
Les premiers symptômes, c'est un animal qui va être abattu, qui va être fiévreux, fébrile, présenter des vomissements, il va peut-être boire beaucoup, faire beaucoup pipi, ce qu'on appelle de la PUPD, il va peut-être avoir de la diarrhée, il va peut-être avoir des ictères, c'est-à-dire que comme une jaunisse, en fait, il va devenir jaune. Là, en général, les propriétaires commencent à s'inquiéter à la première étape, hein, fièvre, abattement. Et puis, tout ça, ça vient dans les 24-48 heures qui va suivre. C'est une hospitalisation en urgence avec des soins lourds en hospitalisation, souvent sur 4-5 jours. Et si ça
on
suffit
pas...
On
arrive à les sauver ?
On arrive à les sauver de plus en plus que la dialyse se démocratise, mais
se met en place
plus facilement maintenant sur les chiens. Alors, ça n'existe pas chez le chat, mais la leptospirose n'est pas vraiment une pathologie du chat. Il y a des cas décrits par la littérature qui sont extrêmement rares. Mais maintenant, dans un premier temps, c'est perfusion, antibiotiques et tous les traitements symptomatiques qui entourent ça. Et si le rein ne reprend pas une activité normale, ben on le fait passer par une machine, ça s'appelle la dialyse.
Donc, on rappelle la nécessité de la vaccination. La vaccination pour la leptospirose, ça fait partie d'un package de vaccins, en fait.
Oui, c'est ça.
C'est plusieurs vaccins réunis en un. Une injection par an ?
Une injection par an. Il faut commencer par ce qu'on appelle une primo-vaccination. C'est une injection, on rappelle, à 3-4 semaines.
Ça, c'est la première fois qu'on vaccine l'animal ou si on n'a pas fait ces vaccinations de manière régulière.
Exactement. Et même dans les régions les plus touchées, on peut même se permettre de faire 3-4 primos à 3-4 jours, à 3-4 semaines d'intervalle. Et j'imagine pour les chiens de chasse ou même les chiens qui passent leur temps dans le bois de Boulogne où on en voit beaucoup, parce que moi, mon activité, ça se situe principalement à côté. Je sais qu'on en voit en ce moment entre une à deux par semaine.
Ah oui,
et c'est gravissime pour une pathologie.
Et c'est vrai, parce que nos auditeurs nous écoutent dans la France entière. C'est vrai, vraiment dans les milieux urbains de France aujourd'hui, les rats sont malheureusement de plus en plus présents. Donc voilà, il faut avoir tout cela bien présent à l'esprit. Alors le printemps, c'est aussi le moment où on jardine, Fabien. Et quand on jardine, parfois on utilise des produits qui peuvent être dangereux pour nos animaux.
Alors, en effet, bon, la mode est de moins en moins en produits phytosanitaires dangereux, mais quand même, on veut se débarrasser des...
Même quand on prend des désherbants naturels, c'est pas forcément très bon pour...
C'est pas forcément très bon. Alors, c'est moins mortel, mais à choisir au moindre mal. Les insecticides et les mollucides sont principalement responsables des intoxications en ce moment. On a envie de se débarrasser des mauvaises herbes, on a envie de se débarrasser des limaces au fond du jardin, on met quelques granulés. Le chien passe par là, les granulés mollucides sont très appétants pour les chiens, ils ont un petit goût sucré, sinon les limaces les mangeraient pas, hein, si c'était amer. Et là, il y a une intoxication qui peut être plus ou moins grave. Dans la très grande majorité des cas, on les sauve, mais ça nécessite quand même 2-3 jours d'hospitalisation. C'est pas une raison pour laquelle on devrait laisser les mollucides. Et puis le chat, il se fait avoir de manière plus insidieuse, c'est-à-dire qu'il traverse un jardin ou un endroit qui a été traité. Il s'en met partout sur les poils. C'est des produits qui sont très lipophiles, hein, donc qui rentrent dans les graisses de la peau. Puis ensuite, il se fait sa toilette quotidienne. Et là, c'est l'intoxication. Donc les chats, la première chose qu'on fait, on les nettoie au Pec Citron. Excusez-moi pour une marque, mais au nettoyant vaisselle. C'est ce qui dégraisse le plus.
D'accord. Alors, donc, on pense à ranger tous ces produits de jardin, comme les produits ménagers. Hein, d'ailleurs, même si sur les produits ménagers, il n'y a évidemment aucune saisonnalité. Cette période de l'année, c'est aussi le moment où on va fêter Pâques et où on va manger du chocolat. Et ça, ce n'est pas terrible pour nos animaux.
Et non, on cessera de le répéter tous les ans. Hein, c'est le chocolat est considéré comme un toxique chez le chien et le chat. Alors, le chocolat, ça concerne plutôt le chien. Parce que c'est lui, a priori, qui a le plus d'appétence envers ce chocolat. Alors, tout le monde le sait, le problème, c'est que du chocolat, il y en a partout.
Je suis pas sûr, hein, que tout le monde le sache. C'est vrai. Bien de le rappeler.
Oui, alors, vraiment. On va le rappeler quand même un peu, parce que c'est...
Alors, c'est une substance très particulière dans le chocolat qui s'appelle la théobromine.
La théobromine.
Qui est en fait la substance de base du cacao, finalement.
Exactement. Donc, en fonction du pourcentage de cacao, c'est sûr qu'un chocolat blanc, hein, il y en a des traces.
Ouais.
Chocolat au lait, il n'y en a pas beaucoup. Et là, le pire, c'est la poudre de cacao. Hein. Donc, un chocolat à la poudre de cacao sur un petit chien, on rappelle quand même que ça peut tuer. Le poison, c'est la dose.
Très bien, mais écoutez, merci beaucoup Fabien, je suis obligée de vous couper un petit peu prématurément. Profitez quand même du printemps, hein, même si on vous a raconté plein de choses qui font un peu peur ce matin. Allez, petite pause encore et après on va parler faune sauvage et chauve-souris.
Animalis, le magasin des animaux à vivre et à aimer. Retrouvez-nous aussi sur animalis.com. Animalis présente.
Sud Radio, vos animaux, Natacha Harry.
Merci à vous d'écouter Sud Radio. Merci d'être là pour votre rendez-vous consacré aux animaux, animaux de compagnie et faune sauvage. Et au programme de cette émission, à suivre à l'état sauvage, nous vous parlerons des chauves-souris. Alors non, n'ayez pas peur. Vous verrez que ces petits animaux sont extrêmement utiles. N'hésitez d'ailleurs pas à réagir au 0826 300 300. Vous savez, on vous attend au standard. Et puis nous vous ferons découvrir deux événements solidaires, la Wamiz Run et les Assises de la protection animale. Allez, préparez vos baskets, la Wamiz Run, ce sera pour dimanche.
Mais pour l'heure, les questions véto qui vous sont posées, Natacha.
Sud Radio, vos animaux, questions véto.
Et ce matin, on accueille José. Bonjour José.
Oui, bonjour.
Bonjour José. D'où bonjour. Nous appelez-vous, José?
Je vous appelle du Val-de-Marne.
Du Val-de-Marne. Très voilà. Bien. Je vous écoute.
Oui, voilà. Donc, moi, je n'ai pas d'animaux, principalement à titre privé, mais j'ai des chats du voisinage, parce qu'on habite dans une résidence. Ils, oui. Ils viennent à la maison le matin, quand j'ouvre, je fais de l'air dans la maison. Ils viennent, alors je leur donne de l'eau. Parfois, ils aiment bien, mais ils sont plus souvent là, on va dire... pendant l'hiver, pendant la période où il fait un peu froid, et puis quand c'est l'été, ben, on dirait qu'ils ont d'autres occupations, ils ont d'autres maisons peut-être, ou alors...
Ils se baladent peut-être, hein, tout simplement. C'est ce qu'on disait voilà. Tout à l'heure d'ailleurs, dès que le printemps arrive, les chats aiment bien aller se promener.
Exactement. Mais ils sont les bienvenus hein, à la maison, alors j'ai pu...
Vous avez combien de chats qui passent vous voir comme ça régulièrement, José?
Alors, il y en a... Au début, il n'y en avait qu'un seul.
Oui.
Et puis après, il y en a un deuxième.
Il a passé le mot au copain.
Exactement. Et puis un troisième, et un quatrième. Et puis, bon.
Alors, quelle est votre question par rapport à ces chats, j'imagine?
Oui, je voulais savoir, est-ce que vraiment, effectivement, c'est le changement de temps qui fait qu'ils viennent moins souvent, ils se disent, tiens, je vais me balader plus que de passer chez un autre voisin?
C'est sûr que c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure avec le docteur Fabien Klosinski. Dès que les beaux jours arrivent, les chats sont des animaux qui aiment bien explorer leur territoire, aller à la recherche des femelles quand il s'agit des mâles. Les femelles vont elles aussi d'ailleurs à la recherche des mâles, d'où l'importance de la stérilisation. On ne le répétera jamais assez pour éviter la prolifération des chats. Qu'ils soient errants ou pas errants, d'ailleurs. Donc, dès que les beaux jours arrivent, c'est sûr qu'ils sont moins enclins à venir vous rendre visite, ou alors la visite va être de plus courte durée. Alors, peut-être que vous leur donnez des petites friandises et des petites choses à manger, et à ce moment-là, ça leur plaît bien, donc ils passent quand même vous voir, mais ils doivent rester un peu moins longtemps chez vous.
Exactement, tout à fait, oui.
Vous leur donnez quoi régulièrement?
Alors,
vous les nourrissez?
Oui, bon, j'avais acheté des petites croquettes pour eux.
Vous avez l'impression que ce sont des chats qui vivent dans la nature, qui n'ont pas de propriétaire, ou ce sont des chats qui vous semblent entretenus?
Ah non, ils sont entretenus, hein, comme on est.
D'accord,
dans
ce
une
sont
résidence.
Des chats des voisins, en fait.
Voilà, ce sont des chats des voisins, ce sont des chats qui vivent dans des pavillons, etc. Non, ils sont bien, hein, ils sont entretenus, ils sont tout propres, etc. Et voilà, donc moi je leur donne à manger des croquettes parfois, et puis... surtout de l'eau. Alors, ils aiment boire. Le matin, ils ont soif. Donc, de l'eau. Ils, parfois, très peu les mélanger avec de l'eau, mais on m'a dit que c'est pas bon. Donc,
le lait?
Oui.
Écoutez, il y a des chats qui peuvent être intolérants au lactose qui est contenu dans le lait de vache. Certains le supportent très bien, mais il ne faut quand même pas abuser de ce lait qui n'est pas tout à fait correctement fait pour eux, en fait. Et puis, quand ils sont intolérants, ça se voit assez rapidement. Il y a des troubles digestifs, ça peut provoquer des démangeaisons chez les chats. Donc voilà, si ça se passe bien avec le lait de vache, vous pouvez leur en donner un petit peu, mais pas trop souvent quand même. Et puis si vous voyez qu'au contraire, ça peut provoquer des soucis intestinaux ou dermatologiques chez eux, surtout évitez de leur en donner.
Oui, tout à fait, oui. Et puis voilà, donc ils sont très gentils, j'ai l'impression de communiquer avec eux. Bon,
Bah, écoutez, je pense qu'ils doivent trouver que l'accueil est sympathique chez vous. C'est pour ça qu'ils viennent vous rendre visite. Voilà, José, merci en tout cas de nous avoir appelés. On vous souhaite un bon week-end dans le Val-de-Marne. Profitez bien de ces journées, de cette journée et de ce week-end extrêmement printanier.
Et si, comme José, vous voulez poser vos questions à Natacha Harry ou ses invités, n'hésitez pas, 0826 300 300. On vous attend au standard de Sud Radio par mail à l'adresse jeparticipe@sudradio.fr.
Merci Gaspard, allez tout de suite à l'état sauvage.
Sud Radio, vos animaux à l'état sauvage.
Et ce matin, on vous parle d'un petit animal qui peut faire peur. Il faut dire qu'il a un physique quand même un petit peu disgracieux. Et pourtant, c'est un animal extrêmement utile. Il s'agit de la chauve-souris. Pour nous en parler, j'ai le plaisir de recevoir un spécialiste, Jean-Christophe Bartolucci. Bonjour Jean-Christophe.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Alors, vous êtes bénévole dans une association qui s'appelle le groupe des chiroptères d'Aquitaine. Et vous êtes également chiroptologue. Alors, vous allez peut-être...
Chiroptérologue.
Vous allez expliquer à nos auditeurs de quoi il s'agit. Vous exercez cette fonction au sein du Conservatoire d'espaces naturels d'Aquitaine. Chiroptérologue, ça veut dire que vous étudiez les...
Les chiroptères, et donc en fait les chiroptères, ce sont les chauves-souris. Chiro, en fait, ça veut dire main, et ptère, aile.
Alors, les chauves-souris n'ont pas très bonne presse, et pourtant, ce sont des animaux qui sont à la fois fascinants par leur biologie et extrêmement utiles dans la nature. Pourquoi ont-elles une aussi mauvaise réputation ?
Alors déjà, je vous entendais dire, effectivement, il y en a quelques-unes qui ont quand même un physique assez disgracieux, ça on peut pas le nier. Mais malgré tout, il y en a d'autres qui sont très mignonnes, qui ont des sortes de têtes de petits chiots, qui sont très agréables à regarder malgré tout, mais bon, après ça c'est très subjectif. Et on va dire que de par le passé et encore à l'heure d'aujourd'hui, elle souffre de très très mauvaise réputation et de rumeurs en fait qui sont complètement fausses et infondées.
Par exemple, les chauves-souris qui s'accrochent dans les cheveux des gens, tout ça c'est
exactement
totalement faux.
Donc ça c'est une légende hein, et a priori ça ce serait une légende qui vient du Moyen-Âge. C'était pour éviter que les jeunes filles sortent la nuit, donc pour les garder au chaud à la maison. Voilà,
très
on
bien.
Disait attention, les chauves-souris s'accrochent dans les cheveux.
C'est comme le grand méchant loup. Parfait, on a bien compris. Alors vous pouvez nous parler un petit peu de la biologie de ces animaux que l'on trouve un peu partout sur le territoire français.
Oui. On en trouve un peu partout sur le territoire français et en fait la chauve-souris elle a une biologie qui est assez atypique on va dire parce que en fonction des saisons elle aura une étape biologique différente. Donc déjà ce sont des espèces qui hivernent parce que elles mangent toutes des insectes en France métropolitaine et en hiver il n'y a pas beaucoup d'insectes donc l'évolution a fait le choix de les faire hiberner. Si bien que elles vont être dans les cavités souvent ou dans les caves. Complètement léthargie, donc la température du corps s'abaisse.
Ou sous les toitures aussi.
Alors sous les toitures, on les trouvera, mais plutôt en été, parce qu'elles vont rechercher la chaleur. À ce moment-là, c'est pour la mise bas.
D'accord. L'hiver, on les trouve plutôt dans les caves.
Exactement, soit dans les cavités, donc les carrières ou les grottes, ou les caves. En fait, elles vont chercher des conditions climatiques stables et assez fraîches.
Et donc, en cette période de l'année, elles bougent. Elles changent de territoire.
Alors en hiver, elles sont complètement immobiles, elles ne bougent pas. Si vous voulez, elles ont emmagasiné de l'énergie à l'automne pour pouvoir passer tout l'hiver. Et donc, vu qu'il n'y a pas d'insectes, si elles se mettaient à bouger, elles n'auraient pas la capacité de récupérer cette énergie. Et donc ça pourrait même être létal pour les chauves-souris.
D'accord.
Donc c'est vraiment à partir du printemps où en fait elles vont se remettre en activité à l'arrivée des beaux jours et du coup avec les insectes qui vont recommencer à sortir.
Marie veut intervenir sur le sujet, elle a composé le 0826 300 300. Bonjour Marie.
Bonjour.
Bonjour Marie. Marie, bonjour. Je crois que vous avez expliqué au standard de Sud Radio que vous aviez des chauves-souris chez vous.
Oui, effectivement, je suis confrontée assez régulièrement aux chauves-souris, notamment l'été, parce que j'ai une grande maison de famille dans le Beaujolais, et régulièrement, en fait, elles se coincent dans les volets.
Oui.
Et ça arrive fréquemment que quand on ferme les volets le soir, qu'il y en ait 3-4 qui sortent en même temps. Et j'ai un peu la phobie des chauves-souris, donc forcément, dès qu'on les touche, c'est un peu... c'est un peu bizarre. Et c'est arrivé une fois que la lumière est allumée dans la chambre et du coup, la chauve-souris est rentrée. Donc, elle se met à
tourner
en tourbillon.
Et là, vous étiez sous le lit.
Alors non, parce que je fermais les volets à ce moment-là, donc du coup elle est rentrée, mais c'est vrai que c'est tétanisant de l'avoir rentrée comme ça et de se dire comment je la fais sortir de la chambre maintenant, est-ce qu'il faut que j'éteigne la lumière, est-ce que quelle est la solution pour les faire partir après.
Alors Jean-Christophe, quelques conseils pour Marie.
Alors quelques conseils, effectivement, déjà ce que je pourrais dire dans un premier temps, c'est d'éviter de prendre les chauves-souris à main nue. Si des fois elle devait être au sol ou quoi, on conseille toujours de pas les prendre à main nue.
Pour quelle raison?
Déjà parce que il y a quand même des espèces qui sont connues pour être porteuses de la rage. Donc c'est pas la rage vulpine, mais malgré tout, ça peut être.
C'est pas la rage des renards en fait.
C'est ça, c'est pas la rage des renards, mais malgré tout, ça peut être assez dangereux. Et en plus de ça, il y a aussi la possibilité que nous on lui transmette des maladies qui pourraient lui être létales. Donc, en plus de ça, même, il y a certaines espèces qui peuvent être assez agressives si on essaye de les prendre en main, qui pourraient mordre. Donc, si, admettons déjà, il y a une chauve-souris au sol dans une pièce, on la prend avec un gant. Et le mieux, c'est de la mettre derrière un volet. Maintenant, dans le cas où elle est dans la pièce et qu'elle tourne, en fait, il faut se rendre compte qu'elle est complètement affolée. Et elle essaye. Les chauves-souris, en fait, ont une très bonne vue, mais elles utilisent surtout l'écholocation. Et en fait, l'écholocation, c'est la capacité qu'elles ont à émettre des petits cris qui sont inaudibles pour l'homme. Et avec l'écho de ces cris, elle arrive à visualiser tout son environnement. Donc en fait, en tournant, elle essaye de voir un peu tout ce qu'il y a autour d'elle et de trouver une sortie.
Alors quand Marie vous demandait s'il fallait éteindre ou pas la lumière, est-ce que c'est utile finalement pour que la chauve-souris ressorte?
L'idéal, c'est d'éteindre la lumière parce que vu qu'il y en a beaucoup, beaucoup d'espèces qui n'aiment pas la lumière, ça va créer un stress au niveau par rapport à la chauve-souris. Déjà qu'elle est, un peu perdue. Donc le mieux dans ces cas-là, en fait, c'est d'éteindre la lumière, de laisser les fenêtres ouvertes. Et on conseille même éventuellement de quitter la pièce normalement. Et
elle va sortir toute seule.
Voilà, en principe, elle sort toute seule. Il n'y a pas de souci.
Voilà, Marie, vous allez être rassurée la prochaine fois que vous allez croiser la route d'une chauve-souris.
Voilà.
Vous saurez comment agir. Merci d'avoir composé le 0826 300 300. Jean-Christophe, par rapport à ces chauves-souris, je le disais aussi en introduction, ce sont des animaux qui sont utiles dans la nature.
Alors, comme je le disais, en effet, vu qu'elles vont se nourrir d'insectes, on voit très vite l'utilité qu'elles peuvent avoir, parce que, par exemple, elles vont pouvoir consommer des insectes qu'on considérerait comme nuisibles. Donc, par là, on peut classer le moustique, on peut classer tous les insectes qui vont s'attaquer aux cultures, par exemple. Et en France, là, il y a un certain nombre d'études qui émergent au niveau de la viticulture. C'est d'essayer d'utiliser les chauves-souris comme auxiliaires parce qu'en fait, elles vont se nourrir de petits papillons de nuit dont la chenille se nourrit des grappes ou des feuilles de vigne. Et donc
c'est important de les laisser tranquilles, d'autant plus qu'il s'agit d'espèces protégées.
Voilà, donc effectivement, en France métropolitaine, toutes les espèces sont protégées. Donc si on ajoute la Corse et les quelques études génétiques récentes qui ont démontré qu'il y avait, là où on pensait qu'il n'y avait qu'une seule espèce, en fait, il y en aurait plusieurs, on arrive à peu près à 41, 42 espèces qui sont toutes protégées en France métropolitaine. Ouais.
Alors que faut-il faire très rapidement quand on trouve une chauve-souris qui a l'air mal en point? Vous la trouvez quelque part par terre, par exemple, dans votre jardin, et vous vous dites, tiens, c'est bizarre qu'elle soit là. Comment on réagit?
Donc je dirais, il y a deux cas de figure possibles. Soit on voit qu'elle est vraiment blessée. À ce compte-là, il y a des centres de soins qui peuvent recueillir les chauves-souris. Donc il faut regarder sur Internet. En principe, on trouve assez facilement en fonction de là où on se trouve.
En fonction de la région où on est, oui.
Tout à fait, oui. Si a priori elle a pas de blessure apparente, donc toujours la vigilance, voilà, de pas la prendre à main nue. Mais moi, ce que je conseille, c'est de la mettre derrière un volet. En principe,
la nuit. Ce qu'il faut pas oublier, que les chats sont des grands prédateurs des chauves-souris.
Exactement.
Donc, il ne faut pas les laisser par terre.
Des chats tout à l'heure. En fait, les chauves-souris, l'avantage de vivre la nuit, c'est qu'on limite très fortement le nombre de prédateurs. Il y a quelques chouettes, la chouette effraie par exemple, qui va pouvoir manger des chauves-souris, mais ça reste quand même ponctuel. Et par contre, le chat, lui, va pouvoir aller deux jours chercher les chauves-souris dans les colonies et tout, et ça peut faire des ravages. Oui.
Très bien, je vous remercie infiniment Jean-Christophe Bartolucci. Je rappelle que vous êtes bénévole pour l'association du groupe des chiroptères d'Aquitaine et que vous travaillez également pour le Conservatoire des espaces naturels d'Aquitaine. Voilà, beaucoup de bénévoles hein, dans cette association et dans d'autres s'occupent des chauves-souris et c'est important de le faire. Allez, petite pause et on se retrouve dans quelques minutes.
Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente.
Vos animaux sur Sud Radio, c'est votre histoire.
Et vous le savez, chaque semaine dans Vos animaux, nous aimons vous raconter des histoires d'engagement. Eh bien, aujourd'hui, deux histoires d'engagement. La première concerne l'organisation des Assises de la protection animale. Pour nous en parler, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Philippe Darnaud. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour Natacha.
Alors
bonjour.
Jean-Philippe, vous êtes avec nous par téléphone parce que justement, vous êtes actuellement aux Assises de la protection animale que vous organisez sur la ville de Saint-Mandé, c'est dans le 94. Pouvez-vous expliquer à nos auditeurs ce que sont ces assises ?
Bien, bien. Alors donc les assises sont organisées par l'Arche des associations, qui est une fédération d'associations que j'ai l'honneur de présider. Donc je viens d'ouvrir ces assises il y a quelques minutes, et puis là c'est actuellement notre parrain Mathieu Ricard qui nous passe un message du Népal. Donc les assises en fait sont, on avait besoin, parce que nous sommes contactés très très régulièrement par des particuliers ou des petites associations, et le but était d'essayer de créer en fait une véritable trousse à outils, qui soit pratique, juridique, éthique, pour le grand public qui souhaite s'engager, et les petites associations qui ont souvent des contraintes.
Et qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir tout cela à disposition en étant seules dans leur coin.
Absolument, absolument. Donc on a considéré que c'était une bonne idée de mettre tout le monde dans la même pièce, enfin dans une très très belle salle, très grande salle. Nous sommes très nombreux aujourd'hui, c'est un grand succès. Et pour pouvoir effectivement, il y a 13 intervenants qui sont des grands experts qui se succèdent pour donner effectivement cette trousse à outils. Parce qu'en fait, quelque part, nous sommes complètement convaincus qu'il y a un lien irréfutable entre la cruauté qui est faite aux animaux et la violence qui est exercée sur les humains. C'est très important pour nous. Donc ces assises sont vraiment contre la maltraitance animale et surtout donc le bien-être animal qui nous motive vraiment.
Donc ça va se passer toute la journée avec une succession d'interventions, des intervenants vraiment de très grande qualité. Vous pouvez nous citer quelques-uns de vos invités ?
Donc là, juste après Mathieu, c'était Stéphane Lamarre, qui est le président de l'association Stéphane Lamarre. Ensuite, c'est la cellule antitrafic de la SPA. Avec Tamara. Ensuite, on a le député Loïc Dombreval, qui est le président du groupe d'études conditions animales de l'Assemblée nationale. Important d'avoir aussi ce soutien. Ensuite, on a Jean-François Courreau, qui est professeur Jean-François Courreau de Vaux-en-Alfort pour la faune sauvage qui est en état d'alerte. On a également Alain Bougrain-Dubourg de la LPO qui vient nous parler de la biodiversité. On a ensuite Sandrine et André Bouglione, plus d'animaux dans les cirques. On a Norin Chai, notre
collègue. Donc ça
collègue.
Veut dire que vous balayez quand même très largement toutes les palettes de la protection animale, qu'il s'agisse des animaux de compagnie, de la faune sauvage captive, de la faune sauvage qui vit en milieu naturel. C'est
absolument
vraiment le grand rassemblement
oui.
de protection animale.
On a Richard Cord, qui est le président de la Ligue française de protection du cheval également. Donc, et vraiment, on a Katia Renard, bien sûr, de 30 millions d'amis, et Solidarité Refuge, que je soutiens, bien entendu, aussi au quotidien. Voilà, donc, il y a un comité d'experts, avec, bien sûr, Serge Belay, Patricia Rerol, enfin, tout un tas de personnalités que vous connaissez bien. Voilà, donc, c'est un colloque.
Et on peut venir assister, Jean-Philippe Darnaud, quand on est public, jusqu'à 18h30, ça se passe
absolument.
Où ?
Ça se passe dans l'hôtel de ville de Saint-Mandé, dans la grande salle des fêtes.
Oui.
C'est ouvert à tous. Et comme ça se succède toutes les demi-heures, donc c'est ouvert. C'est gratuit.
D'accord.
Voilà, tout le monde est le bienvenu. Si vous voulez, juste avant d'aller promener les animaux, puisque les animaux sont bien entendu bienvenus, avant de les promener dans le bois de Vincennes, vous allez faire un petit saut et rencontrer, puisqu'on a aussi 23 ateliers, 23 associations qui présentent. Il y a des dédicaces de livres, Norin, Chai, Alain Bougrain-Dubourg, Laetitia Berlin, etc. Voilà, donc c'est le grand rassemblement pour le bien-être des animaux.
Eh bien, en tout cas, merci pour ce que vous faites pour la protection animale. Et moi, je viens vous retrouver
à
la fin de l'émission.
À tout à l'heure. Merci aussi pour tout ce que vous faites.
Merci Jean-Philippe. Bonnes assises.
Merci.
Au revoir. Alors, deuxième action solidaire en faveur des animaux. On en parle maintenant avec Adrien Ducousset, qui est directeur général du site, mondialement connu de tous ceux qui aiment les animaux, c'est Wamiz. Wamiz organise depuis 3 ans, je crois, maintenant.
Tout à fait.
La Wamiz Run. Adrien, c'est quoi la Wamiz Run ?
Alors, la Wamiz Run, c'est demain. Et demain, ça va être une journée de ouf. Parce que déjà, il va faire
de
très
ouf.
Beau et de ouf. Le principe de la Wamiz Run, c'est un événement déjà festif autour du chien, puisque c'est le chien qui sort les participants. Donc vraiment, on est dans une approche centrée autour du chien et qui s'articule autour de deux événements majeurs qui sont le canicross, qui est une épreuve de compétition sportive chronométrée où on court avec son chien.
Oui, combien de kilomètres ?
De 6,5 km.
D'accord.
Il faut savoir que cette année, en plus, on va avoir la chance d'avoir...
Avec des chiens entraînés. Hein.
Des chiens entraînés, ouais, des équipements adaptés, parce qu'il y a une vraie traction qui s'effectue au niveau du bassin, notamment du coureur. Le chien est devant, évidemment, et c'est lui qui permet d'aller encore plus vite. Et on aura le privilège demain d'avoir le champion du monde de la discipline, Anthony Lemoigne. Donc le matin, ce canicross, et l'après-midi, on a une canimarche. Alors là, c'est beaucoup plus accessible. On peut le faire en marchant, en trottinant, en courant. Où là, l'équipement est moins important puisqu'il n'y a pas forcément de traction. Et l'après-midi, ça va être au profit... parce que tout cet événement est organisé au profit des Chiens Guides Paris, qui est une association qui se trouve...
C'est effectivement une course solidaire. Voilà. C'est important de le rappeler.
Tout à fait. C'est 100% caritatif parce que le matin, il y aura un challenge avec nos partenaires qui vont courir pour justement collecter de l'argent et donner à l'association Chiens Guides Paris. Et l'après-midi, chaque participant, 1 km parcouru, c'est 1 € pour l'association. Donc voilà, vraiment un événement 100% solidaire et caritatif au profit des Chiens Guides
Paris. Ça fait donc maintenant 3 ans que Wamiz soutient de manière diverse et variée, d'ailleurs, différentes associations. Cette Wamiz Run, c'est un vrai succès. Combien de participants attendus ou même de public, si vous arrivez à dénombrer visiteurs.
Les dossards sont partis très vite et volontairement, on a limité le nombre de participants parce qu'il y a quand même beaucoup de chiens qui sont concentrés au même endroit. Donc pour des raisons de sécurité et de confort aussi. Donc il y aura 250 participants au canicross et 450 à la marche. Et il faut savoir aussi dans les nouveautés cette année, on a organisé une blind marche, toujours pour sensibiliser par rapport au handicap.
Alors expliquez peut-être de quoi il s'agit.
Voilà. Entre le cross du matin et la marche, donc vers midi, il va y avoir un petit atelier où une vingtaine de personnes vont pouvoir découvrir un peu ce que c'est que de marcher comme ça avec les yeux bandés. Donc ils seront accompagnés par des personnes qui ont été formées pour justement les sensibiliser sur comment appréhender ce handicap et l'importance du chien justement dans l'accompagnement pour éviter les obstacles qui seront sur le parcours.
Pour nos auditeurs qui souhaitent vous rejoindre, on vous retrouve où dans le bois de Vincennes? Parce que c'est vaste.
Alors, c'est un cadre magnifique, c'est juste devant le château de Vincennes, l'esplanade Saint-Louis, et c'est demain toute la journée devant le château de Vincennes.
Et on peut venir avec son chien?
Évidemment.
Bon, eh bien écoutez, préparez vos baskets et demain, on a tous rendez-vous devant le château de Vincennes, dans le bois de Vincennes, proche de Paris, pour participer à cette Wamiz Run. Merci beaucoup Adrien.
Merci Natacha.
Voilà, vos animaux, c'est terminé pour cette semaine. Mais je voulais quand même vous dire que la semaine prochaine, on fait une émission spéciale en direct du zoo de Vincennes. Alors à partir de mercredi, vous allez pouvoir gagner des places pour être à nos côtés et avoir la chance d'une visite exclusive des coulisses du zoo de Vincennes. Pour ça, il vous suffira de nous suivre sur nos réseaux sociaux, le Facebook et l'Instagram de Sud Radio, et sur mon compte personnel aussi, mon compte Instagram Natacha Harry officiel. On vous fera gagner des places pour cette visite exclusive et puis vous assisterez à notre émission. Allez, je vous embrasse, on compte sur vous la semaine prochaine en direct du zoo de Vincennes. Très bon week-end à tous.
Sud Radio, vos animaux.
Avec Animalis, le magasin des animaux à vivre et à aimer. Retrouvez-nous aussi sur animalis.com.